Mon identité en Christ, est-ce que vous commencez à reconnaître en Jésus-Christ par les études qu'on a faites? Faisons un petit retour sur la semaine passée avec notre frère Mauricio. Mon identité en Christ, je n'ai pas reçu un esprit de crainte. Hein, il nous avait parlé de la crainte, mais un esprit, mais de force, d'amour et de sagesse, basé sur 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et on avait parlé aussi de « je peux trouver grâce et miséricorde en temps de besoin ». Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Deux sujets qui étaient bien apportés par notre frère hier, la semaine passée. Cette semaine, mon identité en Christ, j'ai juste un sujet pour vous cette semaine. Bien, il y a du stock. Je vous le dis, il y a pas mal de stock. Et c'est un sujet qui est très d'actualité parce que vous allez voir que dans notre milieu évangélique, je devrais dire évangélique parce que je ne veux pas aller trop serré, vous allez voir, c'est un sujet que vous avez peut-être entendu parler, peut-être que vous avez des amis qui en parlent, des personnes proches de votre famille qui en parlent, peut-être que même vous voulez connaître mieux ce sujet. Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Oh, un sujet intéressant. Vous allez voir que malgré qu'on suit un livre que je peux ressortir, donc « Living Free in Christ », à un moment donné, vous allez voir, on va bifurquer un petit peu de M. Neil Anderson dans sa position. Ça va être basé sur le verset 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Oh. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. » Ce verset comporte 3 aspects. Donc, on peut voir 3 parties rapidement dans ce verset. Afin de mieux le comprendre, il faut les mettre dans le contexte. Mon professeur, je sais, je vous l'ai déjà dit, il disait toujours « contexte, contexte, contexte ». C'est un prétexte, voilà. Il ne disait pas ça, mais c'est une bonne…
Son professeur.
Ah, c'est Monsieur Gazdic. Ah, moi, c'est Monsieur Pierre Constant. Fait qu'on a des bons professeurs. Donc, contexte, contexte, contexte. Jean commence le verset en disant « Nous savons que quiconque est né de Dieu… » ne pêche pas. Comment devons-nous comprendre cela? Est-ce que quelqu'un qui s'est levé ce matin et qui s'est dit « Je ne pêche plus! Je suis un enfant de Dieu, je ne pêche plus! » Levez la main si c'était votre cas. Évidemment, je ne me suis pas levé ce matin en me disant cela. Mais qu'est-ce que vous pensez? Où ce verset va-t-il? Comment est-ce qu'on devrait commencer par interpréter ce verset-là? Petite réponse rapide, quelqu'un qui veut essayer une réponse. Ah oui, oui, effectivement, on peut lire le contexte. On peut commencer par lire le contexte, regardez, je vais vous pointer dans une direction. Nous pouvons également lire 2 autres versets. Quand on n'a pas tout à fait le contexte pour comprendre, on peut élargir, on peut aller dans le reste du livre. Est-ce que quelqu'un qui peut me lire 1 Jean 3, 6 et 9, puis quelqu'un d'autre qui peut me lire 1 Jean 1, 9 à 2, 2.
6 et 9. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu.
OK. Et 1 Jean 1, 9, jusqu'au chapitre 2, 2.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole de Dieu et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ.
Est-ce que Jean se contredit lui-même dans sa propre épître? Est-ce qu'il dit que on pêche ou on ne pêche pas? Ce matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait, effectivement, je ne suis pas encore parfait, malheureusement. Je ne suis pas encore parfait, je pêche encore et je pêche lamentablement. Donc, nous pouvons voir que la réponse dans l'explication même de la phrase. De quoi en parle-t-il? De la nature du chrétien, sa position, son identité. Il nous dit qu'un vrai enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, il n'a pas une habitude, un style de vie qui démontre que le péché fleurit en lui. Vous avez raison. Bravo, vous avez un peu de maturité dans le Seigneur. Donc, vous savez que effectivement, on pêche, mais c'est notre identité, notre position dans laquelle nous sommes ici que Jean est en train de parler. Donc, né de Dieu. Une personne qui est née, sa position, son identité est considérée comme non pécheresse. Comme je vous dis, la position, pas la personne qui pêche à tous les jours. Donc, c'est l'explication qu'on peut donner à cette première partie. Au chapitre 3 et verset 6, le verbe utilisé est un présent continu dans le grec. Jean veut montrer que le chrétien peut occasionnellement faire des péchés, occasionnellement entre guillemets, là, OK? J'ai essayé de chercher le meilleur mot occasionnellement que je pouvais trouver. C'est ce que j'ai pris. Parce que occasionnellement, ça veut dire plus des fois, moins des fois. Oui, on a des bonnes journées, comme on pourrait dire, ou des moins bonnes journées. Pour cela, le chapitre 1 explique ce qu'il faut faire lorsque on pêche, et c'est de se repentir. Merci pour la lecture de ce qui est du Jean 1. Donc, notre position est une position devant Dieu face de non-pécheur. Notre position face à Dieu. Si nous pêchons, et nous pêchons, nous devons revenir à la croix pour demander pardon. Chaque fois que je pêche, je dois revenir encore à la croix et dire « Merci pour ton sacrifice. Merci qu'il était complet. Merci que je suis vu comme non-pécheur, mais je veux me repentir devant toi encore une fois pour ce péché. » Je pense qu'il y avait une main qui se levait, oui.
Verset 6 et 7 du chapitre 1 aussi, c'est vraiment... Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout.
Il y a une multitude, c'est très bon, merci, il y a une multitude de versets qui peuvent être amenés pour... Quand il y a un point, on peut regarder ce point-là de multiples façons. J'en ai apporté quelques-uns, excellents points également pour en amener d'autres. Lorsque l'on regarde de plus près l'expression « est né de Dieu » dans le grec, le verbe est conjugué aussi dans un temps continu. Il suggère une relation débutée dans le passé qui continue à changer dans le futur. On peut donc conclure que Jean nous dit qu'un changement de conduite devrait découler de la nouvelle naissance. Donc, à un moment, comme on a dit, je suis né, enfant de Dieu, j'ai été pardonné, mon identité en Christ est vue comme parfaite, je continue à pécher malheureusement, mais il devrait avoir un changement de vie, de style de vie. Mon identité est que je ne veux pas rester dans ce péché. Je ne veux pas vivre dans ce péché. Est-ce que pour vous, ça veut dire que vos péchés vont tous s'effacer? Allez-vous être capable de, j'allais utiliser le mot subjuguer, là, c'est un peu fort. Allez-vous maîtriser tous vos péchés? Je voulais vraiment trouver, j'ai cherché sur l'Internet, essayer de trouver quelqu'un qui... Parce que je sais que ça existe, des gens qui disent qu'ils ne pêchent plus. Je voulais trouver la face de quelqu'un. Il y a une église qui dit qu'elle ne pêche plus. En tout cas, je ne sais pas si c'est de l'aveuglement volontaire ou si c'est tout simplement de l'insouciance, mais juste dans ma tête, je sais pertinemment que je pêche. Juste dans ma tête. Après ça, tout ce qui sort de ma tête et toutes les actions, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me convaincre. Mais gloire à Dieu, on a un sauveur. On est attaché à ce corps mortel qui nous cause le péché dans notre vie, oui. Notre identité ne pêche pas. Notre identité ne pêche pas, oui.
Il faut faire attention, le truc qui enseigne pourquoi on ne pêche plus. C'est une exagération, je pense que c'est un mensonge qui s'attend. Mais il faut faire attention, chez nous, là, on peut prendre de l'autre côté. Que à cause de la chair, à cause de Satan, à cause de la tentation, à cause du monde, on pêche encore, puis finalement, ça devient une excuse pour pécher. Donc là, tandis qu'en réalité, je pense qu'avec le Saint-Esprit qui vient en nous, quand on pêche, on le sait, il nous le dit, et c'est là qu'on devrait se repentir de notre péché. Et si on éteint l'Esprit, si on l'étouffe, etc., n'importe quel verset qu'on trouve dans le qualificatif, on n'est plus dans la lumière. En réalité, l'enfant de Dieu, son identité en Christ, nous sommes dans la lumière et notre péché est mis en lumière. Il faut faire attention de ne pas prendre ça comme une excuse.
C'est bon. Effectivement. Donc, une autre justification pour montrer que oui, nous péchons encore, malheureusement. Mais ce n'est pas une justification pour le péché. Oui, nous péchons, mais ce n'est pas une justification pour dire que nous devons continuer à pécher. Nous devons lutter à genoux tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, avec la puissance du Saint-Esprit. Avec, comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne réponse de dire que c'est Satan qui veut faire du péché quelque chose de faux. Puis ensuite, de l'aveuglement volontaire pour dire qu'il ne pêche pas. Jean continue en disant, « Mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Sommes-nous libres de dire non au tentateur? » Nous pouvons voir que Jean a bien compris notre cœur. Il sait que nous ne pouvons résister seuls. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, « Avec l'aide du Saint-Esprit. » Jean 17, 15 dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Jean nous montre que seul, on est sans défense. On est vraiment sans défense. C'est simple, hein? Quand on veut lutter contre une mauvaise habitude, la tendance, c'est que je vais réussir peut-être une, peut-être deux, mais éventuellement, si je lutte seul, je vais tomber, malheureusement. Je vais retomber dans cette mauvaise habitude. Ou dans une autre. La puissance vient de Dieu. C'est lui qui nous protège des attaques de Satan. Nous ne pouvons pas seuls. Donc, celui qui est engendré de Dieu le garde. Donc, celui qui est engendré garde nous. Celui, c'est Christ, engendré de Dieu. Et Jean termine le verset « Et le malin ne le touche pas. » Dans quel sens? Pour comprendre cette phrase, nous pouvons regarder trois autres passages. Et c'est quelqu'un qui peut prendre Matthieu 6, 13, quelqu'un Jean 20, 17 et Jean 6, 39. Donc, le malin ne le touche pas. Donc, encore une phrase un peu complexe. On a eu que le chrétien ne pêche pas. On a eu que celui qui est engendré est gardé. Maintenant, on a le malin ne touche pas. Okay. Est-ce que Satan n'a aucun pouvoir sur moi? Lisons, est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 6, 13?
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire.
Jean 20, 17.
Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères de plusieurs de la part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu.
Et Jean 6, 39.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je le fasse bien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
On voit que le malin, donc qui est le malin? Nous voyons que le masculin et la personnelle que Jean parle, c'est directement de Satan. Avec le passage de Jean 20-17, nous comprenons que toucher prend un sens de quelque chose de permanent. Satan n'a pas le pouvoir de s'accrocher à moi. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas m'attaquer. Donc, Satan a du grand pouvoir, très grand pouvoir. Mais qui a plus de pouvoir? Heureusement, c'est Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ce que ça dit ici, c'est que ce n'est pas que le malin ne peut pas me toucher dans le sens qu'il ne peut pas venir me tenter, mais c'est qu'il ne peut pas me toucher dans le sens permanent. Il ne peut pas s'accrocher à moi et ne peut pas me faire de lui son esclave. Donc, je ne suis pas l'esclave de Satan, je suis l'esclave de Dieu. Pas au sens péjoratif, mais au sens positif. Nous sommes ses enfants, nous sommes sous sa responsabilité, sous sa puissance, dans sa main. Donc, oui, Satan peut venir me tenter, mais il ne peut pas de façon permanente, s'accrocher à moi. Oui. Et dans Jean 6, 39, nous réconforte en ce sens précis. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes sous la protection particulière de Christ avec la puissance complète de Dieu. Donc, on est protégé. Il y a tout un univers qu'on ne voit pas, qui est le spirituel. Et Dieu nous dit de ne pas jouer avec cela, pour de bonnes raisons. Mais c'est un univers qui existe. Et oui, il y a des luttes dans cet univers-là. Mais grâce à Dieu, merci, il nous promet que nous sommes sous sa protection. D'autres passages en appui, on ne les lira pas ce matin. 1 Jean 2, 13 et 14, Jacques 4, 7 et Apocalypse 12, 11. Désolé, je vais juste brancher mon ordi parce que sinon on va tout perdre. Nous avons dit que l'enfant de Dieu a une identité parfaite aux yeux de Dieu. Qui pêche encore non justifié? Il est gardé par Christ et le Satan n'a pas une autorité complète sur notre vie. Il est le tentateur, le menteur, il veut nous séduire, mais nous sommes protégés par la puissance de Dieu, l'aide de Christ par son sang versé à la croix et par le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, pour continuer cette étude, je dois dire que nous allons, comme j'ai dit, on va bifurquer un petit peu de Neil Anderson. Il apporte les mêmes points du début, mais ensuite, il utilise une façon, ce qu'il utilise, lui, c'est qu'il utilise le passage qu'on vient de voir, et le malin ne le touche pas. Il adhère à une des positions qu'on va regarder, qui prend autorité maintenant sur le monde spirituel. Donc, il va être quelqu'un qui va croire qu'il peut prendre autorité sur Satan, sur les démons, de façon personnelle, en utilisant la puissance de Jésus, mais en utilisant ses propres mots pour lutter contre des démons. On va voir cette position-là, mais on va voir aussi une position que je crois qu'il est très biblique et qu'on va regarder avec des passages. Bibliquement, nous ne croyons pas que en position de faire des exorcismes ni de commander quoi que ce soit à Satan à haute voix. Plutôt, nous prenons une position afin de laisser Dieu combattre notre ennemi. On va voir par différents passages que je crois que c'est Dieu qui doit faire le travail. Nous sommes à l'œuvre pour être ici-bas, mais nous ne devons pas lutter directement contre ces esprits. Nous croyons que le don d'expulsion des démons n'est pas pour nous aujourd'hui. Ce don avait été donné à Christ et à ses apôtres, ainsi que quelques autres dans leur entourage, comme preuve de l'Évangile. Maintenant, il y a eu un temps où, oui, effectivement, il y a eu des exorcismes. On le voit dans les Évangiles. On voit que ça a été fait, mais c'était pour un temps. Comment comprenons-nous les dons apostoliques donnés par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? Miracles, signes et prodiges. Je vais utiliser une courte étude que mon père a faite sur les trois positions. Okay? Donc, j'ai des feuilles ici. Je vais juste attendre un petit peu. Je vais vous les donner parce qu'il y a quand même un texte puis on pourra les regarder ensemble. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que dans la phrase le malin ne le touche pas, est-ce qu'il y a une position d'autorité que nous pouvons ou devons prendre? Et cette autorité, où il y a trois positions dans les dons spirituels qui incluent le don prendre autorité directement sur des démons. Trois positions. Il y a le continuisme, il y a le cessationnisme et il y a le confirmationnisme. Maintenant, jusqu'à hier, je ne savais pas qu'il y avait le confirmationnisme et merci à tous. Merci patient avec moi. En fait, ce que c'est qu'il y a trois positions. Il y a ceux qui pensent ou ceux qui veulent être d'une position qui dit que les dons continuent, que les dons étaient là durant le temps où ce que Jésus était là, avec les apôtres, avec Paul et les autres, et qui voient une continuation encore aujourd'hui des dons spirituels, comme le parler en langue, le prendre autorité sur les dons, la prophétie, etc. Donc, je vais montrer la dernière position qui paraît la plus conforme aux Écritures et à la réalité. Cependant, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une doctrine secondaire par rapport à la radicale importance de la doctrine primaire du salut par grâce, par la foi seule en Jésus-Christ. Donc, c'est une doctrine secondaire. J'y arrive, je vais toutes les expliquer les trois. Je vais juste préparer le terrain. Mais le choix de position a des conséquences pratiques assez importantes. Donc, dépendamment quelle position vous choisissez, il faut le baser sur des principes bibliques. Les conséquences vont quand même avoir une grande importance dans le côté pratique de votre vie. Donc, j'attire votre attention sur les trois paragraphes qui sont le continuisme, le cessationnisme et le confirmationnisme. Le continuisme propose que tous les dons manifestés dans les églises de l'époque du Nouveau Testament soient disponibles et devraient être recherchés et pratiqués de nos jours. Le continuisme cite Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour affirmer qu'il n'y a aucune raison d'exclure les dons apostoliques. Dans les époques qui ont suivi la Pentecôte, le degré d'importance que les églises pentecôtistes et charismatiques mettent sur cette doctrine peut varier. Voir l'article 11, puissance du Saint-Esprit dans l'affirmation de foi de l'Église Sovereign Grace. Tous les dons du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église du premier siècle sont disponibles aujourd'hui, sont vitaux pour la mission de l'Église et doivent être vivement désirés et mis en pratique. Donc, petit paragraphe pour montrer qu'il y a des églises qui croient qu'aujourd'hui, tous les dons doivent être pratiqués. J'ai déjà entendu un prédicateur qui parlait que lui, si quelqu'un ne parlait pas en langue au moment de sa conversion, il ne croyait pas que cette personne-là était convertie. Donc, ça va, comme j'ai dit, c'est une doctrine secondaire, mais dans la pratique, ça devient très important. Donc, le cessationnisme a de grandes implications dans la vie particulière des gens. Les gens doivent rechercher cela et doivent cultiver cela. Donc, quand on adhère à cette position-là, à des niveaux différents, il y a des églises qui sont plus ou moins. Il y en a des églises que vraiment, là, on parle d'utiliser ces dons-là quotidiennement. Il y en a d'autres que c'est un peu moins. Il va y avoir peut-être juste le parler en langue, mais à des niveaux très différents. Chacun. Le cessationnisme. Le cessationnisme déclare que tous les dons spectaculaires manifestés par les apôtres et certains autres chrétiens dans la période néo-testamentaire ont cessé lorsque les apôtres sont morts. Certains cessationnistes admettent qu'il pourrait y avoir une réémergence de ces dons, signes et miracles dans la période de la fin, tribulation ou millénium. Les cessationnistes plaignés affirment que les dons charismatiques, incluant le parler en langue, les dons signes et miracles, ne se produisent plus du tout dans le temps subséquent au Nouveau Testament. Beaucoup de cessationnistes s'appuient sur 1 Corinthiens 13, 8 à 11, où Paul déclare que les prophéties et les langues cesseront. Deuxième position, le cessationnisme. Je dirais que moi, jusqu'à hier, j'étais un cessationniste. J'ai jamais vraiment aimé le mot cessationniste parce que je trouve que c'est négatif, comme si il y avait quelque chose dans le temps et que maintenant Dieu ne pouvait plus ou ne voulait plus ou n'était plus. Donc le mot était négatif. Comme vous allez voir, c'est pas le cas du tout. Les cessationnistes, en gros, c'est une position qui dit que les dons spirituels, il n'y en a plus. Plus aucun, plus du tout. Les dons spectaculaires, oui, effectivement. Les dons apostoliques, effectivement. Donc, tous ces dons comme le parler en langue, les miracles de guérison, les miracles d'exorcisme, tous ces dons-là, dans cette position, n'existe plus. Le confirmationnisme est un sous-groupe du cessationnisme, je fais de la gymnastique, qui désire s'appuyer plus précisément sur le Nouveau Testament. Il propose aussi que les dons apostoliques aient cessé avec la période apostolique, mais que Dieu manifeste encore sa puissance miraculeuse par des manifestations autrement qu'à travers les hommes spécialement doués. Dieu peut produire un miracle suite à des prières individuelles ou en communauté, mais il n'y a plus à rechercher les mêmes dons de la période apostolique. Les dons signes de l'Esprit ont été donnés à des hommes spécialement sélectionnés, les apôtres et certains autres chrétiens dans la période charnière entre l'Ancien et la nouvelle alliance. Est-ce que c'est la voiture bleue qui est en avant? OK. Quelqu'un va nous... Le confirmationnisme s'appuie sur la série de 5 versets qu'on va regarder un petit peu plus loin. ci-dessous pour répondre à la question fondamentale. Quel but est-ce que le Nouveau Testament donne aux miracles, signes et prodiges? Ce but est clair et précis. Le don qui avait été donné aux apôtres à cette époque avait comme objectif de confirmer et authentifier la parole apostolique pour la publication de la Nouvelle Alliance. Dieu a doué son Fils et ses apôtres de puissance pour faire des signes, prodiges et miracles afin que le message du Nouveau Testament soit proclamé et inscripturé. Une fois ce nouveau texte canonique reçu et établi comme faisant partie de l'Écriture au même titre que l'Ancien Testament, ce n'était plus nécessaire d'avoir les mêmes dons spectaculaires. Merci pour votre écoute. Maintenant, je résume. On a la position continuisme, qui dit que les dons continuent. On a la position cessationniste, qui dit que les dons ont complètement cessé et qu'on ne doit même pas penser qu'on doit les rechercher. Et on a le cousin germain, qui est le confirmationnisme, qui dit que les dons spirituels exceptionnels ont cessé pour l'individu. Donc, un individu n'a plus le pouvoir continu d'avoir, mettons par exemple, le don de guérison. Dieu ne donne plus ce don particulier à une personne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les dons se sont manifestés d'une nouvelle façon. Ils sont manifestés à travers la communauté chrétienne par la prière. Donc, ce n'est pas que les dons ont cessé, c'est que les dons spéciaux pour une personne en tout temps ont cessé. Les cinq textes qui sont là sont les cinq textes sur lesquels on se base. J'aimerais en lire trois, qui sont les trois premiers. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 16, 20, quelqu'un d'autre Actes 14, 3 et quelqu'un d'autre 2 Corinthiens 12, 12, s'il vous plaît.
Nous ayons travaillé avec eux et confirmé la parole par le miracle qui m'accompagne. Parce que Marc 16, 20.
Merci. Actes 14, 3.
Il parlait plein d'assurance dans le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains.
Les passages qu'on a lus et les deux autres passages, dans les passages, quel est le contexte dans lequel on voit ces miracles? On voit qu'ils sont faits par ces apôtres et qu'ils sont faits là pour confirmer l'évangile qui était apporté. La parole qui était apportée. C'était une nouvelle parole. C'était une parole qui n'avait pas été encore prêchée, qui avait besoin de cet appui, comme l'appui que Jésus a donné à sa propre parole. Il l'a apportée avec des miracles. Et l'Évangile est proclamé encore à travers les apôtres, qui, eux, confirment encore l'Évangile par ces miracles. Maintenant que le canon est complet, l'Évangile n'a plus besoin d'être confirmé par des miracles de quelqu'un qui veut apporter une nouvelle parole. Il y a aussi, là c'est en plus petit, excusez, là, mais il y a d'autres, en plus de ces cinq textes-là, on peut aller aussi voir d'autres passages pour montrer que c'était pour confirmer la parole des apôtres.
Hébreux est évidemment clair. Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté.
Voilà. Donc, on peut voir effectivement que la parole avait une importance vitale et qu'elle a été prouvée, apportée, le poids a été apporté par des miracles pour démontrer cette parole qui était prêchée par les apôtres. Dans le Nouveau Testament, quelles sont la fréquence et la tendance des dons spectaculaires? Lorsqu'on étudie l'ensemble du canon du Nouveau Testament, on peut voir très clairement, lorsqu'on y va d'une façon dans le temps, on peut voir très clairement que, oui, dans les évangiles, il y avait une haute importance, en fait, de miracles. Quand on va vers Actes, quand on va vers, après ensuite, les épîtres, et jusque dans l'Apocalypse, on voit une nette diminution des miracles. Une autre confirmation que, oui, le niveau de signes et miracles diminuait avec le temps. Et maintenant que c'est complété, le niveau, le besoin de proclamer à travers les miracles, de confirmer à travers les miracles, n'est pas nécessaire. Ceci était effectué particulièrement par ceux qui avaient vu et entendu Jésus. On peut voir aussi cela dans ce que nous, lorsqu'on étudie les signes miraculeux. La transition aussi vers la prière d'intercession individuelle et en Église s'accroît énormément. L'Église grandit et la transition des apôtres se fait vers des conseils d'anciens. Dans le temps, on voit lorsqu'on fait l'étude de ces miracles, guérisons, exorcismes, on voit que les apôtres en faisaient et on voit à travers le temps que, oh, c'est l'Église qui prend une place plus grande, que la prière en communauté, la prière individuelle, cette puissance que Dieu nous a donnée, c'est là que réside la puissance. Et non dans un guérisseur, quelqu'un qui est capable de faire des miracles. Grosse question. Maintenant, je la pose à vous. Est-ce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui?
Oui.
OK, je veux qu'on les lise. Je vais vous faire encore lire. Jean 15, 7, Jacques 5, 14, 15 et 1 Jean 5, 14 et 15. La parole. Je veux pas que ce soit moi qui le dise, je veux que ce soit la parole.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Jacques 5, 14, 15.
Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le voyant l'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Et 1 Jean 5, 14, 15.
Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé.
Dieu fait encore des miracles. Dieu n'est pas moins puissant que lors du début de l'Église. Il n'est pas moins puissant. La position que nous prenons n'est pas un Dieu qui est petit. Pas du tout. Au contraire, je pense que Dieu est aussi puissant que le jour où il a créé son Église. Il est aussi puissant. Et une position qui dit que les dons spirituels ne sont pas en une personne, ne prend pas une position de dire que Dieu est moins puissant et qu'il ne fait pas de miracles. Ce n'est pas du tout ce que ça dit. Ça dit que Dieu est encore très puissant, mais que la façon dont il a décidé que l'Église allait avoir ces miracles n'est pas la même. Ils n'avaient pas la parole, effectivement. Ces passages nous montrent encore une fois que Dieu veut que nous lui demandions dans sa volonté, par la prière, ce dont nous avons besoin. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Okay? J'ai essayé de tout mettre, trois versets dans cela. Commençons par le début. Il veut que nous le demandions. Oui, Dieu veut que nous demandions des choses. Il veut. Je peux venir au pied de la croix pour demander. Et il dit que demander. Maintenant, est-ce que je peux demander n'importe quoi? Non. Dans sa volonté. Donc, est-ce que ça veut dire que la première phrase qui devrait sortir de nos prières, c'est « Seigneur, merci pour ta grâce ». Quelle est ta volonté pour moi? Quel est ton plan pour ma vie? Je pense que ça, c'est la première chose qui devrait, une des premières choses qui devrait transparaître de nos prières. Donc, demander dans sa volonté, dans son plan, par la prière. Par la prière. Mais dans la prière, ce n'est pas juste individuel, comme on a dit, c'est aussi en communauté. Parce que on le voit dans les évangiles que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient assidus à l'église ensemble. Ensemble, en communauté. Maintenant, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça peut nous amener à montrer qu'on peut lutter ensemble, en communauté? Ensemble pour quelque chose? On a accès au trône de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Luttons, prions, demandons dans sa volonté pour plusieurs choses à Dieu. Donc, ce n'est pas juste qu'il faut prier seul, mais il faut aussi prier ensemble. Mais il nous dit de demander dans sa volonté. Oui, Dieu connaît toutes choses. J'ai aimé ce que Dominique a dit. Dieu peut faire toutes choses. Dieu va faire toutes choses. Le petit point de demander, c'est tout petit. On est tout petit face à Dieu. Fait que Dieu va faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et il va accomplir ce qu'il veut. Okay? Dans sa volonté. Maintenant, nous, ça ne nous empêche pas que Dieu nous dit qu'on peut nous approcher de lui pour lui demander dans sa volonté, dans son plan, pour que, qu'il nous donne certaines choses. La parole de Dieu enseigne aussi qu'on demande très mal. Je demande très mal. Souvent, je demande très mal. Je demande pour mes propres désirs, ma propre chair. Malheureusement, c'est pas une bonne chose, mais c'est quelque chose qui est. Dieu va accomplir un plan en nous. On peut se référer à ce qu'on a entendu dans les autres études. Dieu va accomplir du changement en nous. Et dans son plan, il veut qu'on apprenne à lui demander. Comment lui demander? Pourquoi lui demander? Et la volonté de Dieu, c'est pas nécessairement que ça aille mieux. Je m'explique. Des fois, la volonté de Dieu, c'est qu'on passe par un temps difficile. C'est qu'on aille dans une épreuve. C'est qu'on aille des tristesses. Oui, ça passe aussi par cela. Et ça se peut que, malheureusement, sur cette terre, on n'y voit pas le bout. Hein? Peut-être que dans sa volonté, ça veut dire que lui a un plan plus grand que juste moi. Parce que peut-être que par ma difficulté, d'autres viendront à venir à Christ. Hein? Donc, est-ce que ma volonté doit être que moi, je suis bien? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Pas nécessairement. Mais est-ce que Dieu va accorder sa grâce, sa paix à travers sa volonté? Oui. Ça, je vous le garantis, si vous demandez, vous l'aurez toujours. Toujours. Est-ce que vous allez avoir la tentation d'avoir de l'inquiétude et tout cela? Oui, ça aussi, ça se peut que vous l'alliez. Mais si vous demandez la paix de Dieu dans sa volonté, à chaque fois, il va la donner.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait que souvent, on tombe et en bon québécois, on se pète la face? C'est qu'on ne veut pas accepter la volonté de Dieu. On ne veut juste pas l'accepter. Malheureusement, hein? Dieu, il dit pas que ça va bien aller. Puis, malheureusement, nous, on se dit, non, c'est pas de Dieu que je sois pas bien. Fait que je vais pas le faire, je vais pas faire ça. Je vais faire autre chose. Ben, Dieu, il dit, regarde, tu vas tomber sur ta face. Oui, Jonas aussi, il s'est retrouvé 3 jours dans un poisson. Il promet Dieu promet pas que ça va bien aller, mais il promet sa bénédiction à travers son plan divin pour notre vie. Et je pense que ça résume bien l'idée. Donc, pour partir de mon passage du départ, nous n'avons pas l'autorité directe sur Satan. Je ne suis pas puissant comme cela. Je n'ai pas cette puissance. Je dois prier dans la volonté de Dieu et c'est là la puissance que j'ai. La prière seule, la prière en communauté. Donc, on peut demander, demandons dans sa volonté par la prière et il va bénir dans son plan. Est-ce que je peux demander à Mauricio, s'il te plaît, de prier pour terminer?